toca a ti, toca a ti. Toca a ti.
Bonsoir à vous tous qui suivez cette tribune de la presse en ce moment. Nous revenons ce soir sur le bilan de la Chambre basse du Parlement. Cette semaine, le président de l'Assemblée nationale était l'invité spécial de l'émission Dialogue entre Congolais. Ensuite, vous l'avez sans doute remarqué aussi, cette semaine, des manifestations pour ou contre les concertations politiques avant les élections se sont multipliées dans certaines grandes villes de la République. Enfin, nous allons parler de la visite de 2 jours à Kinshasa d'une délégation de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette délégation était conduite par l'ambassadeur représentant la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les invités de cette tribune de la presse aujourd'hui sont Nancy Odia, directrice d'information à Congo Web Télévision. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes dans ce studio également avec Benclet Kankonde, qui est journaliste et directeur de rédaction au journal Le Potentiel. Également bonsoir.
Bonsoir, Bruel.
Et en direct de la Belgique, nous sommes avec Rogatienne Kapema, journaliste indépendante. Bonsoir, Rogatienne.
Bonsoir.
Encore une fois, bonsoir. En 3 ans de transition en RDC, l'Assemblée nationale a-t-elle rempli sa mission d'élaborer et de légiférer des lois pour le bon fonctionnement de la vie nationale et de l'État durant la transition? Cette chambre basse du Parlement a-t-elle contrôlé les actions du gouvernement et des autres services de l'État? Mercredi dernier, nous avons reçu dans ces studios des Radio Capi le président de l'Assemblée nationale qui a répondu à toutes ces questions. Cependant, je vous propose dans cette tribune de la presse, non pas de revenir sur le bilan effectué par le président de cette institution, de la transition, mais plutôt d'analyser les différentes opinions émises par nos auditeurs par rapport au travail abattu par cette chambre basse pendant la transition. Aussi, je suis avec Nadine Foula dans ce studio qui a réuni pour nous certaines de ses opinions. Nadine, bonsoir.
Bonsoir Breuil, bonsoir à tous nos auditeurs. Nous ouvrons cette page avec Maître Claude Mosengo qui nous écrit à partir de la ville de Bandundu. Il trouve que le Parlement des belligérants est responsable de la prolongation de la transition car il a voté des lois essentielles en retard. Le 30 juillet, le Congo aura un Parlement du peuple. Willy Kabamba Kananga dit « Honorable, bravo à votre institution pour s'être spécialisée dans la vente des espaces miniers de la RDC. » Gaston Hassani de Kalemi pense qu'il est temps que l'Assemblée nationale passe à la phase de contrôle afin de démasquer les ennemis du peuple pour les sanctionner aux urnes. J.P. Bangui de Kananga dit que le Parlement ait au moins le courage de se pencher sur le rapport de Tundula sur le piège des richesses du pays, sinon le peuple considérera comme une caisse de résonance du pouvoir prédateur tant décrié par tous. Debounia Côté Jean-Paul, étudiant âgé de 3, dit « En dépit de la manipulation de quelques parlementaires par la politique de leurs composantes respectives, tout Congolais doit sanctionner positivement ces parlements pour avoir fait un travail louable de vote de loi faisant prémisse de démocratie. » Et enfin, Faustin Agoma dit « Monsieur, il n'est pas question de négocier entre les politiciens. Au 30 juillet, nous allons les chasser du pouvoir par les élections. »
Oui, nous avons là des opinions de nos auditeurs. Alors, Rogatienne Kapema, nous commençons par vous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante. Vous venez de suivre ensemble avec nous cette première vague d'opinions des auditeurs sur les bilans qu'ils font même de cette institution, donc la chambre basse du Parlement. Quel est votre point de vue?
Eh bien, Madame Nganga, je dirais qu'il y a à boire et à manger parce que si nous devons commencer par le début, il faut d'abord parler de la légitimité de du Parlement parce que tout le monde est censé savoir, ainsi que la population congolaise, que le Parlement pratiquement est rempli d'anciens belligérants ou bien d'autres personnes qui étaient dans l'opposition politique non armée et qui sont venus, représenter la population congolaise en soi-disant élaborer les lois et contrôler le gouvernement. Mais si on regarde le travail qui a été abattu par le gouvernement avec tous les détournements, les déboires, politiquement parlant, leur travail n'a pas vraiment été assez positif. Mais je dirais au point de vue, les objectifs qui ont été insignés au Parlement parmi les 23 lois pour la période de transition, si nous parlons de 12 lois qui ont déjà été adoptées, de ce côté-là, c'est légèrement positif parce qu'ils ont déjà dépassé le minimum et la moitié. Mais il y a beaucoup de choses encore qui restent à voir au sein du Parlement parce que si nous parlons un peu de la constitution congolaise. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous, nous y vont à l'extérieur et nous apprendrons que cette constitution a été élaborée par des universités occidentales et particulièrement de la Belgique où je réside actuellement, de l'université de Liège. Donc, c'est-à-dire que c'est une constitution qui a été élaborée à l'extérieur et qui a été imposée au Parlement congolais et d'où certaines personnes ont voté positivement. Donc, oui. Voilà pourquoi je disais qu'il y a à boire et à manger.
Oui, Ben Clette Kankondé, vous êtes journaliste et directeur de rédaction au journal Le Potentiel. Ces opinions des auditeurs des Radio Capi, vous les avez suivies avec nous. Quel est votre avis par rapport à tout ça?
C'est un éventail qui explique bien ce que les gens ont compris, ont essayé de voir dans le travail abattu par les députés de la transition. C'est vrai qu'au regard du calendrier qu'ils avaient élaboré eux-mêmes depuis Sun City, ils ont fait suffisamment de, sur pied suffisamment de lois qui peuvent permettre aujourd'hui de passer de la transition à la Troisième République. Mais ils n'ont pas fait assez, parce qu'ils avaient 2 ans, mais ils ont pris 3 ans. Et même en 3 ans, ils n'ont pas fait tout l'essentiel. Ça, c'est d'abord un premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'élaboration de certaines lois, on a senti des pesanteurs liées à la préséance de l'esprit des composantes et entités. Donc, ils ont été assez partisans pour élaborer certaines lois parce qu'il fallait faire plaisir à un tel, il fallait aménager un tel ou un tel autre. Donc, le travail qui reste maintenant à parfaire quand nous aurons des députés élus par le peuple. Ça, c'est quelque chose aussi. Et puis, le travail de contrôle des institutions qui revient, qui est l'une des prérogatives du Parlement, ils n'ont pas joué vraiment à fond cette carte. Voyez-vous, le rapport, le Tundula, il n'a jamais été rendu public. C'est de façon incidentielle qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. Mais le Parlement n'a pas eu le courage d'aborder cette question. Et pourtant, c'est lui-même, le Parlement, qui avait dépêché cette mission.
Oui, mais en ce qui concerne le contrôle de l'action même du gouvernement, selon le président de l'Assemblée nationale, ils ont eu quand même à tonner un peu et à prendre des mesures. Par exemple, à demander au gouvernement de mettre out ou de chasser certains ministres qui avaient été accusés de détournement.
Et là, on peut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que les ministres qui avaient été écartés à une certaine époque n'ont jamais été traduits en justice. Ils demandent toujours à être traduits, de faire devant les juges, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors, quelle est la crédibilité maintenant de ce rapport-là? Ça, c'est un de deux. Après la vague des premiers ministres, de ce lot-là des ministres qui avaient été évincés, il y a d'autres détournements qui se sont poursuivis. Ceux qui les ont remplacés n'ont pas les mêmes propres. Et pourquoi le Parlement s'est tu? Donc, voyez-vous, il y a à manger à boire, comme le disait Rogatienne tout à l'heure.
Oui, Nancy Odea, vous êtes directrice d'information à Congo et de télévision, également votre réaction?
Bon, il faut reconnaître que ce Parlement est issu des Sun City, c'est-à-dire des négociations, comme vient de soulever mon confrère. Et ce sont des députés, puisque nous parlons de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas été élus par le peuple. Et on a constaté qu'ils avaient du mal à se mettre d'accord, même pour des points simples, des lois qu'ils élaboraient. Je prends le cas de l'amnistie. Plusieurs fois, on a vu beaucoup d'entre eux claquer la porte. Donc, c'est des lois qui auraient pu être votées, par exemple, 2-3 mois après le début de la transition, mais qui l'ont été à la fin, et même alors adoptées ou votées. Ces lois n'ont jamais reçu le quitus de tous. Et prenons la loi sur l'amnistie, par exemple, on dit que la constitution actuelle balaye d'un revers de la main l'article 96 de la constitution de la transition qui parlait de l'amnistie. Donc le travail abattu par le Parlement concernant cette loi précise tombe caduque. Et on a aussi constaté que ce Parlement était en fait, comme je l'ai toujours dit, une caisse de résonance du gouvernement. Quand vous posez la question au rapporteur de l'Assemblée nationale, pourquoi telle loi n'a pas été votée à tel moment, pourquoi ça s'est fait comme ça, il va vous dire parce que le gouvernement a envoyé le texte de loi en retard. Comme c'est un Parlement qui n'a pas su faire son travail, c'est-à-dire exercer un certain contrôle sur le gouvernement. Et c'est un Parlement qui était censé être autonome, qui est une institution à part, mais il était un peu lié au gouvernement. Je prends sur le plan financier, par exemple. L'Assemblée nationale et le Sénat devaient avoir leur dotation propre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils dépendent du ministère du Budget, des Finances, de la Banque Centrale, du ministère des Finances, comment ils appellent ça, la chaîne des dépenses. C'est que même pour acheter du papier, ils doivent se référer au gouvernement. Même pour acheter du carburant, ils doivent se référer au ministère du Budget. Vous voyez que là, déjà, ça leur crée une certaine dépendance, ce qui fait que le Parlement n'a pas pu faire son travail comme il se doit.
Alors, suivons une autre vague d'opinion des auditeurs toujours à ces sujets. Nadine Fola, oui. Sur le Parlement. Donc, ok, on n'a pas une autre vague d'opinion, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part, en ce qui concerne les lois qui ont été votées, il n'y a pas eu quand même un effort fait par le Parlement ou l'Assemblée nationale Rogasen Kapema?
Effort, je dirais pas tellement, parce que comme vient de le dire ma consoeur tantôt, il est vrai que la majeure partie des parlementaires ont voulu défendre, c'est-à-dire leur parti politique, leurs opinions et les anciens troupes de belligérants qui se sont fusés en parti politique, comme je le disais tantôt. Et ça, je ne dirais pas tellement parce que, vous savez, des fois j'applaudis même M. Karel de Buttin, il a parlé du manque de responsabilité du politique congolais. Mais par rapport au Congolais, aujourd'hui il te dit oui, demain il te dit non. Donc le Congolais est assez, il change à chaque minute, il change à chaque seconde. En fait, on ne sait jamais quelle est la position réelle. Aujourd'hui on est allié, demain on s'allie à un autre, demain on s'allie à l'ennemi, demain on s'allie à ceci.
Donc, mais par rapport aux lois votées à l'Assemblée nationale, il y a eu quand même un effort fait par les députés même durant cette transition. On a vu les lois, par exemple, organisant les élections. Ça fait quelque chose à féliciter, quand bien même qu'on a eu à décrier le fait que ces lois aient été votées en retard. N'est-ce pas, Ventura?
Mais madame, je devrais vous dire qu'ils étaient sous pression. Rappelez-vous du déplacement de M. Louis Michel qui disait en passant pour aller à Brazzaville qu'il souhaitait que le Parlement congolais puisse voter. Il y a eu beaucoup de pression au sein de ce Parlement. Au fait, ce Parlement n'a jamais été libre. Vous verrez, vous sentirez noir sur blanc que le Congo est géré par l'Occident et non par des nationaux.
Oui, Ben Clet.
Il y a eu tellement d'efforts de la part des Congolais en soi.
Oui. Ben Clet, également votre avis par rapport à cet effort quand même qu'on a remarqué du côté du Parlement.
Oui, c'est vrai que le Parlement a fait un effort, qu'il a fait, ce n'est pas suffisant. Ça, je reviens toujours sur les mots, ce n'est pas suffisant. Et il a subi beaucoup de pression de la part de l'Occident, ça c'est vrai, parce qu'on a vu ce qu'on appelait des experts belges, des experts britanniques, des experts sud-africains qui sont venus pour la constitution de la République démocratique du Congo. Alors que nous, aujourd'hui, nous avons des experts congolais qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis, qui sont partout, mais dont on ne tient pas compte au pays. Ça c'est, je crois que nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'hommes des médias, c'est quelque chose qui nous révolte. Parce que l'intrusion de ces experts, ce qu'on appelait experts étrangers, dans l'élaboration de notre constitution, a fait qu'il y a des dispositions de la constitution qui ne pourront pas passer demain et qui, d'emblée, seront révisées dès que nous avons notre premier parlement issu des élections.
Oui, Nancy Odia, est-ce qu'il n'y a pas quand même à applaudir quelque part ces députés issus des composantes, mais qui sont quand même parvenus à amener les 1 plus 4 aux élections?
Ah oui, il faut applaudir, bien sûr. Mais prenons la suite. Maintenant, il y a une session qui avait été amorcée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait durant cette dernière partie? Et il y a le quorum qui n'est jamais atteint. On convoque des plénières, ils ne viennent pas, ils sont tous en campagne. Le Sénat, par exemple, n'a tenu aucune plénière. La toute dernière a eu lieu hier, seulement sur le projet portant statut de magistrat.
Donc, et le quorum n'était pas atteint.
Le quorum n'était toujours pas atteint. Il sèche les plénières, ça, c'est pas bon du tout. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été fait bien avant, bien qu'en retard, comme vous le dites si bien. Mais même pour la suite, il y a des lois, il y a quand même des dossiers importants pour lesquels le peuple congolais aimerait avoir des éclaircissements. Nous prenons le rapport de Tundela. Et puis, il y a cette question sur la prolongation de la transition ou la fin de la transition le 30 juin ou l'article 222. Le Parlement s'en était référé à la Cour suprême de justice, mais il faut que cette question soit abordée quand c'est prévu à l'ordre du jour.
Il y a qui demande à ce qu'il y ait une plénière pour qu'il puisse statuer sur ça également.
Tout à fait logique, mais quand le point est inscrit à l'ordre du jour, le quorum n'est jamais atteint, comme pour dire qu'il y en a quand même qui sèchent les plénières parce que la question n'est plaint pas à certains ou à tel autre, aux députés de telle ou telle autre tendance.
Non, oui, Ben Clet.
Non, si, il y a ceux qui aujourd'hui sèchent les séances du Parlement, du Sénat, ils ont d'autres raisons. Non seulement qu'ils sont déjà en campagne électorale pour leur réélection, mais il y en a qui se disent, écoutez, nous sommes menacés par l'invalidation de notre mandat à la suite de l'affaire Olivier Kamitatou. La menace pèse toujours. Et alors il s'est dit, si nous nous retrouvons avec le quorum, quelques malins parmi nous peuvent soulever la question parce qu'elle est inscrite à l'ordre du jour. Et en ce moment-là, notre mandat peut tomber à une semaine justement de la fin de notre mandat. Voilà.
Alors, changeons de sujet. Depuis l'annonce du calendrier des élections présidentielles et législatives au 30 juillet prochain par la Commission électorale indépendante, les partis politiques et autres composantes s'expriment de plus en plus dans la rue. Des marches et des sit-ins se sont multipliés à travers le pays. Selon les couleurs politiques, ces manifestations sont organisées pour exiger ou s'opposer à l'ouverture des négociations politiques avant la tenue des élections. D'abord, le point de la situation avec notre confrère Freddy Lufulwabo. Suivant.
L'UDPS, les FONUS, le RCDN et autres associations et partis alliés sont descendus dans la rue hier. Une marche simultanée à Kinshasa et en Ngandajika au Kasaï oriental pour exiger la tenue des négociations politiques avant les élections. La marche de ce mercredi intervient après celle organisée lundi et mardi dernier dans les artères de Kinshasa, Mbujimayi et Mweneditu. Samedi dernier, le même groupe a mobilisé ses partisans dans les rues de Kisangani, chef-lieu de la province orientale. On se souviendra que le mercredi 31 mai, Kinshasa a été également le théâtre de deux marches opposées. L'UDPS et ses alliés marchaient pour la tenue des négociations, alors que le PPRD, l'UNAFEC, la CCI et leurs alliés étaient aussi descendus dans les rues pour rejeter toute idée de l'ouverture des concertations politiques avant les élections générales. 4 jours auparavant, le parti du chef de l'État et alliés ont organisé simultanément des marches contre ces négociations à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina et Kalemi. Les activistes de la société civile sont aussi descendus dans les rues de Bukavu, Mbandaka, Mbadolité pour marquer leur opposition à la thèse des négociations politiques avant les élections. Encadrés par la police nationale, les marches organisées ces 2 dernières semaines se sont déroulées normalement, sauf en Mbujimayi où la Croix-Rouge a dénombré lundi 13 blessés après la manifestation. Un autre incident à signaler, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été brutalisé hier mercredi par les partisans des négociations politiques.
Oui, Nancy Odea, comment analyser ces différentes manifestations à quelques semaines des élections?
C'est tout à fait légitime. Je ne dirais pas que c'est une marche de plus, puisque ces derniers temps, il y a eu pas mal de manifestations dans ce sens, mais c'est pas une marche de trop, parce que c'est un droit reconnu à tous citoyens du monde de revendiquer ce droit ou de manifester. Mais ce qui me tique un peu, c'est le fait qu'on y retrouve d'autres partis politiques qui n'ont rien à voir avec l'UDPS. Ils disent l'UDPS est allié, alors qu'ils n'ont pas les mêmes motivations. L'UDPS qui dit nous voudrions qu'on nous rouvre des centres d'enrôlement parce que nos militants ne se sont pas fait enrôler. Et les autres qui disent voilà, nous sommes d'accord avec le calendrier qui fixe les élections au 30 juillet, mais il faut quand même négocier. Négocier quoi? Finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes motivations. Et comment ça se fait alors que des gens qui n'ont pas la même vision militent ensemble? Déjà, c'est mal parti.
Nous allons voir ça, Nancy Odea, mais brièvement également, Ben Clet, quelle est également votre lecture de ces événements, ces manifestations à quelques semaines des élections?
Non, comme l'a dit Nancy, c'est une manifestation, c'est une expression démocratique de l'opinion. La Constitution, notre Constitution, nous reconnaît ce droit. Et je crois que les citoyens sont en train d'utiliser effectivement leurs droits. Mais le problème, c'est que les gens qu'on a vu défiler n'ont pas tous les mêmes motivations.
C'est ça qui fait problème. Et qui pourrait viser, par exemple, ces genres de manifestations à quelques semaines des élections?
Bon, je ne vois pas, moi.
Oui, Rogasen Kapema, quelle lecture également vous faites de ces manifestations qui s'organisent à moins de 2 mois de scrutin présidentiel et législatif? Et si vous pouvez avoir une idée de ce que pourraient viser également ces manifestations? Allô, Rogasen Kapema est toujours en ligne? Donc, nous venons de perdre notre consoeur Rogasen Kapema sur la ligne téléphonique. Mais Nancy Odia, que pourrait viser au fait ces manifestations?
C'est vrai, la réponse est tout à fait claire. Il y a les élections qui arrivent. Pour une fois, la RDC, les Congolais pourront choisir leurs dirigeants par les urnes après plusieurs décennies. Il faudrait que tout le monde s'y retrouve. toute la classe politique voudrait bien se classer à la première ligne pour que finalement le peuple congolais ait le choix, quoi, et puisse choisir ses dirigeants sans pour autant se sentir un peu lésé dans ce sens que tel soutient tel candidat et que son favori n'est pas aligné. Et donc dans ce sens-là, il faudrait qu'on aligne tout le monde et ses revendications sont tout à fait légitimes, mais c'est quand même à prendre sous réserve, comme j'ai parlé tout à l'heure des motivations. Est-ce que c'est une question qui intéresse les petits peuples ou c'est des intérêts purement politiciens?
Parlons effectivement de ces motivations, Nancy Oda. L'UDPS, par exemple, soulève un problème d'inclusivité et selon le membre de ces mouvements politiques, on ne peut pas organiser les élections sans un grand parti politique comme l'UDPS. Votre avis, Ben Flett?
Oui, c'est vrai que l'UDPS avait décidé de son propre gré de ne pas participer au processus. Je crois que les gens les plus lucides avaient déjà condamné cette attitude. Heureusement, l'UDPS est revenu dans les rangs, mais un peu plus tard. Mais on ne l'a pas aidé non plus, parce que la commission électorale indépendante clamait à l'époque qu'il y avait un calendrier contraignant, qu'on ne pouvait pas bousculer, qu'on ne pouvait plus refaire l'inscription des militants, des combattants de l'UDPS. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait aucun calendrier, parce que les élections étaient prévues pour la fin de l'année, pour avant juin, mais maintenant c'est renvoyé après. Mais pendant tout ce temps, on ne voit pas ce que l'on fait. Je rappelle aussi que les bureaux d'enrôlement ont continué à fonctionner dans le Bandundu et dans l'Équateur, après la fermeture officielle et après même le référendum constitutionnel. Donc, il y a quelque chose d'assez malsain au niveau du pouvoir organisateur. Donc, la CEI, avec ses partenaires, ses bailleurs de fonds, il y a eu quelque chose de malsain qui n'a pas permis, justement, à l'UDPS de rentrer vraiment dans les rangs.
Oui, Nancy Oda.
Oui, mais les revendications du DPS sont tout à fait légitimes, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on leur a proposé d'autres pistes de solutions, par exemple, comme vient de soulever mon confrère, il y avait des centres qui fonctionnaient encore dans le Bandundu et que le DPS n'avait qu'à envoyer des militants s'enrôler là-bas. Là encore, ça n'a pas plu à nos frères, mais il faut quand même...
Ça demandait quand même des moyens financiers pour
s'enrôler
là-bas.
Ouais. Mais qu'est-ce qui prouve que ces militants ne sont pas enrôlés? On a proposé au président de l'UDPS de s'enrôler le jour du dépôt de sa candidature, mais il voulait quand même, l'UDPS voudrait quand même récupérer ses autres cadres, candidats députés par exemple, parce que c'est clair que les 25 millions d'enrôlés ne font pas partie de ceux qui ont pris le pouvoir, c'est le peuple congolais, parmi eux il y a les militants de l'UDPS. Le problème c'est que l'entourage de Tshisekedi ne s'est pas fait enrôler, donc il faut quand même qu'il présente des candidats députés, c'est là que ça pose problème. Alors, question de souplesse, je me dis, est-ce que si on allait aux élections sans l'UDPS, ça bloquerait? Ok, mais les autres, qu'est-ce qu'ils viennent faire dedans? Les autres partis politiques, qu'est-ce qu'ils demandent?
Non,
c'est là que la démarche de l'UDPS est d'être biaisée.
Évoluons et voyons ce que les autres demandent. Par exemple, le vice-président Azarias Robero a aussi proposé des questions qui, selon lui, fâchent et qui doivent être débattues au cours de ces concertations, à savoir... Pourquoi il n'y a pas des élections le 30 juin 2006? Pourquoi il n'y a pas inclusivité? Et qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça pour que...
Mais lui, c'est un son de cloche à Azarias Robero, comme Roger Lumbala qui donne sa propre formule. Et Azarias dit qu'il faut qu'on fasse, le vice-président Azarias Robero dit qu'il faut qu'on fasse un bilan. C'est un peu ça, mais il y a d'autres qui proposent autre chose aussi.
Oui. Il revient aussi sur, le vice-président Azarias Robero revient aussi sur le problème d'inclusivité qu'a énoncé même l'UDPS, Ben Flett.
Oui, c'est vrai que au stade où nous nous trouvons aujourd'hui, on peut faire un saut dans le passé pour voir que il y a encore beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas minimiser les revendications des autres composantes ou des autres Congolais qui demandent qu'on réqualifie le système. Ce n'est pas qu'on veut postposer la date des élections, mais il faudrait qu'on se parle franchement, puisque les élections n'ont pas eu lieu avant le 30 juin. Parce qu'il était prévu que le 30 juin serait le jour de l'investiture des nouvelles autorités de la Troisième République. Mais ce n'est plus le cas. On nous en renvoya plus tard. Il fallait que la classe politique se retrouve. Parce que pour décider de ce qu'il faut faire dans l'entretemps, et il y a les problèmes de l'insécurité. récurrente dans les provinces de l'Est. J'ai vu un président d'un parti politique qui vient à peine de rentrer du Kivu, qui dit, mais chez moi, je ne peux pas arriver parce qu'il y a des LR qui sont encore là dans mon village. Or, ce sont mes électeurs, ils ne pourront pas. Alors, ce type a perdu d'avance la bataille, avant même de s'engager. Donc, ce sont des problèmes réels qu'on ne peut pas minimiser. Et tout ça, ce sont les Congolais, et non les Belges, ou les Allemands, ou les Américains, qui peuvent comprendre vraiment ce que ces Congolais-là veulent, effectivement, pour leur avenir.
Alors, voyons également pour le problème à traiter lors de ces concertations. Alors, les MLC de Jean-Pierre Bemba énumèrent la sécurité des candidats lors de la campagne électorale, les libres accès de ces derniers aux médias publics, mais aussi le problème des crédibilités de la Cour suprême de justice. Nancy Odia, sur ces différents points soulevés par le vice-président Jean-Pierre Bemba, pour qu'il y ait une concertation politique avant les élections. Qu'est-ce que vous pensez?
Je ne vois pas comment ces questions pourraient être abordées par les acteurs politiques congolais actuels. Vous savez, les Congolais, je ne voudrais pas me placer dans le camp de tel ou tel autre, mais nous savons comment les Congolais négocient. C'est depuis les années 60, qui font la même chose après l'indépendance. Il fallait qu'il y ait des accords. Jamais ils se sont mis d'accord. C'est encore un autre problème.
Est-ce que la question des sécurités, de la sécurité, par exemple, des candidats lors de la campagne électorale ne mérite pas qu'il y ait une concertation politique, par exemple?
Concertation avec ceux qui ne sont pas dans les institutions, qui ne savent même pas ce qui s'est passé dedans. Là, je ne vois pas. C'est une question de volonté de l'intérieur. Il y a un ministère de la Défense, il y a une commission gouvernementale chargée de régler ces questions sécuritaires. Ça ne nécessite pas qu'on y inclue des autres forces politiques qui n'ont pas géré durant toute la transition. Nous allons aux élections, c'est question de flexibilité aussi de la part des uns et des autres. Moi, je penserais plutôt à un petit forum, comme on l'a eu à l'organiser dernièrement sous l'égide du CIAT, un forum interinstitutionnel où on dresserait un bilan, comme on l'a fait l'année dernière. Nous avions interrogé les vice-présidents qui dressaient les bilans de leurs commissions, qui sont de rectifier les tirs et aller peut-être de l'avant et faire mieux. Dans ce sens-là, ça marcherait peut-être un séminaire de 2-3 jours et non pas des négociations à la congolaise comme nous l'avons toujours vécu. Et ça nous permettrait d'aller plus vite.
Oui. Et si je reviens encore au dire du vice-président Jean-Pierre Bemba qui soulève le problème des crédibilités de la Cour suprême de justice, nous savons que la Cour suprême de justice aura à sanctionner les élections. Est-ce que ce problème ne pourra pas au fait... après les élections, poser un semblant de méfiance entre les différents candidats?
Oui, il y a un fâcheux précédent. La Cour suprême de justice, je crois qu'elle aura beaucoup à faire et sera contestée dans beaucoup de choses. Même ceux qui n'auront pas raison de la contester le feront. Tout simplement parce que dans un passé récent, c'est qu'elle a validé. Ce sont des choses qui ont révolté aussi les gens, même les juristes, de la propre Cour suprême. Le cas qui a été évoqué, le cas le cas qui a été mis en relief, c'est celui de la candidature d'un militaire. Donc la Cour a dit que non, il n'y avait pas de militaire qui s'était fait enrôler, c'était un civil. Vous voyez un peu ce genre de choses?
Si je me rappelle bien à la Cour suprême n'avait pas eu même à aller dans le fond même de la matière parce que la forme est déjà n'était pas correcte parce que selon la Cour suprême de justice, il y avait défaut des qualités des requérants.
Ça, les spécialistes peuvent nous endoctriner, ils peuvent nous raconter leurs histoires entre spécialistes. D'abord, ils ne se mettraient jamais d'accord entre spécialistes. Mais nous, qui analysons l'affaire du point de vue tout simplement politique, nous trouvons que c'est malheureux que nous ayons un fraudeur parmi les candidats. Ça, la Cour ne l'a pas dit.
Mais donc Ben Kless, c'est vous qui le dites, vous parlez de fraudeur. Je ne le connais pas, et Nancy Odia, je pense que vous non plus, vous ne connaissez pas, au fait. Mais parlons de la question des crédibilités de la Cour suprême de justice. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'après les élections, on pourra remettre en cause les décisions qui seront prises par cette Cour suprême de justice?
Mais les décisions qui seront prises par la Cour suprême de justice remises en cause, c'est tout à fait normal. L'Africain joue mal, et quand il perd, il crie toujours à la fraude. C'est vrai, nous prions pour que les élections élections soient les plus transparentes possibles. Mais il arrivera, ça c'est sûr, qu'il y ait des contestations de la part de ceux qui perdraient. Nous avons 33 candidats présidents de la République. S'il y a un d'eux qui passe, il y aura 32 requêtes à l'annulation des résultats. Ça c'est sûr. Et si jamais la Cour suprême a validé les résultats, et on dirait, voilà, c'est une Cour suprême qui est tendancieuse, qui prend parti. Mais c'est pas cette question-là qui doit être discutée entre acteurs politiques. C'est un organe qui fait son travail. C'est pas très politique. Faudrait pas mélanger les choses.
D'accord. Et parlons des concertations toujours. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est prononcé sur cette question des négociations avant la tenue des élections. C'était mardi dernier dans son adresse à la population des Kamina au Katanga, suivant cet extrait.
Le dernier objectif de la transition a été l'organisation des élections. Mais avant que je ne parte de Kinshasa, les politiciens sont venus me voir. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, les élections c'est une bonne chose. Mais ne trouvez-vous pas qu'il nous faut d'abord des négociations? Je leur ai dit que je poserai la question au peuple et je vous la pose vous de Kamina. Voulez-vous aller aux élections ou aux négociations? Nous allons aux négociations ou aux élections. Alors, nous irons aux élections.
Nous n'avons pas d'élection.
Oui, Nancy Odia, on va aux élections. Est-ce que cette façon de voir les choses ne met-il pas fin?
Bon, le chef de l'État a procédé à une sorte de consultation populaire, hein. Il l'a fait à l'intérieur du pays, au Katanga. Mais il aurait bien pu le faire ici aussi à Kinshasa. C'est vrai que c'est une population, prêtez-moi l'expression, qui est rurale, qui ne maîtrise pas beaucoup les questions politiques, qui voudrait simplement aller aux élections. Les autres querelles politiciennes, elle connaît pas. Si la même question était posée à Kinshasa ou peut-être au Bas-Congo ici, la réponse serait peut-être différente, mais ça c'est probable que cette population ne maîtrise pas les questions politiques. Vous voyez comment elle a voté oui au référendum constitutionnel sans pour autant connaître ce que voulait dire le vocable même référendum. Il faut dire qu'il y a quand même un travail qui doit être fait dans le sens de la sensibilisation pour que cette population acquiert quand même une culture politique et on arrivera alors à procéder à ce genre de consultation. Sinon, moi je pense que c'est une démarche qui est quand même biaisée.
Oui, Ben Clayton, votre avis par rapport à ça, est-ce que ça ne clôt pas les débats sur les négociations parce que le chef de l'État dit on va aux élections et à ce que nous sachions, c'est le chef de l'État qui doit donner le mot d'ordre pour les négociations ou pas pour les négociations.
Nous vivons une situation exceptionnelle ici aujourd'hui, c'est que c'est pas le chef de l'État seul qui a la vie de la nation entre les mains. La vie de la nation est entre les mains des cinq des composantes et des entités. Donc, ce qu'il dit à Kamina, il ne peut pas le dire dans le fief du RCD, dans le fief du MLC ou dans un autre. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour cela que, vous voyez, le manque de consensus au niveau du gouvernement fait que tout a éclaté aujourd'hui.
Mais ceux-là qui demandent en fait les négociations, en fin de compte, ils les demandent à qui? Qui doit donner le mot d'ordre pour les négociations? Ils les demandent à qui?
Ils s'adressent et entre à eux-mêmes Congolais qui sont dans les institutions, ils s'adressent à la communauté internationale qui veille sur l'évolution.
La communauté internationale qui a déclaré que c'était l'affaire des Congolais, que les Congolais s'entendent entre eux s'ils veulent des négociations, qu'ils puissent faire les négociations, mais pourvu que ça ne puisse pas jouer sur la date même des élections.
C'est dommage que la communauté internationale se soit dessaisie du dossier pour écouter. Nous avons dépensé nos 480 millions pour les élections, aller aux élections, ne nous poser plus d'autres questions. S'il y a de la bagarre, battez-vous entre Congolais. Et vous verrez, c'est ça, les manifestations qui commencent aujourd'hui, demain on ne sait pas quoi, elles peuvent aboutir, et on pourrait rendre aussi la communauté internationale responsable de n'avoir pas pu prévenir ce qui est évident.
Oui, la technique vient de me signaler que Rogasen Kapema est de nouveau en ligne. Rogasen, nous parlons ici des négociations, des concertations demandées par certains politiques avant même la tenue des élections. Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à cette question?
Évidemment, Madame Munganga, vous êtes censée savoir que la Belgique actuellement est, disons, le bastion de l'opposition congolaise, parce que vous verrez qu'il y a eu plusieurs marches qui se sont effectuées en Belgique, et même dernièrement le 10, il y a eu une marche assez mastodonte de Congolais, qui est en train de revendiquer, une concertation entre les politiques congolais par rapport aux élections. Il est vrai que normalement, quelque part, ils peuvent avoir tort comme ils peuvent avoir raison, parce que nous savons tous que normalement les élections sanctionnent un État qui est tout à fait démocrate. Donc on ne va pas parler de démocratie sans élections. Mais il faut savoir élections dans quelle optique ? Élections dans la transparence, élections dans la liberté, élections dans la droiture. Vous savez quelques mois que les Congolais de l'étranger aujourd'hui ont été rejetés par rapport à leur présence ou bien à leur droit de vote par rapport aux élections. Le bas blesse, ce qui fait très mal. Aujourd'hui, on demande que les Congolais puissent s'asseoir entre eux pour parler, d'autres refusent. C'est bien. D'autres veulent supporter, c'est bien beau. Chacun a sa réponse.
Oui, donc c'est votre point de vue par rapport à cette question des concertations et négociations politiques. Et comme nous avions déjà longuement débattu sur ces sujets dans ces studios, nous allons évoluer et on va encore une fois voir qu'est-ce que pensent nos auditeurs à ces sujets. Brièvement, Nadine Foula.
Oui, à ces sujets, les avis sont partagés. Dans le groupe de partisans qui sont pour le dialogue, nous avons Pichu à partir des Kananga. Il dit « Mieux vaut tard que jamais, allons aux négociations et les élections après ». Kiza Biamungu dans la province orientale dit « La concertation politique n'est pas à négliger car vaut mieux prévenir que guérir ». Pierre de Kinshasa dit « L'élection n'est pas une panacée car nous voulons des dialogues avant le 30 juin 2006 ». D'un autre côté, nous avons ceux qui refusent le dialogue. C'est le cas de Massoubou à Benidi. Ceux qui réclament les négociations fuient la censure du peuple par les urnes. Nous les reconnaîtrons par les barbarismes que nous observons. Xavier Massou à Dissiro dit « Pourquoi nos politiciens veulent souvent nous distraire par ce terme dialogue ? Nous ne voulons rien que les élections car nous sommes fatigués. » Pascal de Lubumbashi estime que négocier avant les élections est très important pour nous permettre de voter en sécurité. Docteur Ernest Moussipi depuis Kalemidi, toutes ces marches sont nulles et sans effet car elles vont toujours se solder par un grand échec pour l'instant. Enfin, Jules de Lubumbashi au Katanga dit, le politicien congolais ne sont pas mûrs en politique, ils veulent retarder les élections comme ils l'ont fait à la CNS. Allons tout droit aux élections, pas des négociations pour le partage du pouvoir.
Oui, brièvement, Rogatienne, votre réaction par rapport à ces opinions des auditeurs.
Alors, je crois que ce sont des Congolais d'âme et d'esprit, de chair et de sang, qui ont essayé de réagir par rapport à cette situation qui est passée énormément mastodonte par rapport à notre pays. Parce que les élections sont quelque chose de très très important. Mais il faut savoir dans quelle mesure, dans quel principe, est-ce qu'il y aura respect. Parce que normalement la Constitution nous prouve noir sur blanc que la transition devait se terminer si possible le 30 juin 2006. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'un mois sera-t-il assez suffisant pour que nous puissions passer aux élections présidentielles ? Je peux prendre par exemple la déclaration du l'un des vice-présidents de la République en la personne de M. Azara Soubeyroua lors de la présence de la délégation
Jean-Marc de la Sablière
du Conseil de sécurité, excusez-moi, qui s'est présenté à Kinshasa dernièrement. Il avait dit, oui, c'est bien beau qu'il y ait des élections, mais il n'est pas tellement sûr que le timing sera respecté. Donc vous imaginez un vice-président qui ne croit même pas au respect du timing. Comment voulez-vous que la population congolaise puisse y croire ? Donc je crois que quelque part ils ont raison, et quelque part d'autres peuvent avoir aussi tort, mais c'est une question de goût et de couleur, comme on le dit.
Oui, Nancy Odia, également, brièvement, votre réaction par rapport à ces opinions des auditeurs.
Oui, il faut quand même relever que ceux qui réagissent comme ça, c'est la crème intellectuelle, hein, le petit peuple qui est dans le fin fond du Congo, ne maîtrise pas ces questions. C'est la classe intellectuelle congolaise qui donne son point de vue.
Pas nécessairement, parce que de fond, on reçoit même des opinions qui viennent des Kasumbalesa en Swahili et peu importe les langues, on sent quand même que ça préoccupe tous les Congolais, quel que soit le coin où ils se trouvent.
Hein. Oui, même pas informés, même lorsqu'ils ne sont pas assez informés, les Congolais n'est pas bête. C'est-à-dire qu'il peut quand même comprendre certaines petites questions et donner sa lecture des faits. Mais le problème demeure. Et par rapport aux arguments avancés par les différentes tendances, la population peut opter pour telle ou telle autre position, mais il faut quand même arriver, comme on dit, à éviter qu'il y ait un feu qui ne s'allume après les élections. Mais il faut prévenir que guérir, s'ils peuvent se mettre, s'y concerter durant 2-3 jours pour voir comment évoluer, ce serait quand même intéressant. Pas des négociations du genre Sun City 3, Pretoria 4, mais quand même des petites concertations pour
mettre... séminaire, forum...
Oui, quelque chose comme ça.
Et Ben Clet, votre réaction également?
Non, vous sentez effectivement qu'il y a un malaise dans la société congolaise, que ce soit la société civile, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les observateurs. Tout le monde sent effectivement qu'il y a un malaise. Mais alors, puisqu'il y a malaise, parlons-en. Et pour en parler, ce n'est pas en décrétant ex nihilo que les élections c'est le 30 juillet et que l'entrée en fonction de le deuxième tour c'est vers novembre et que la troisième république c'est en janvier, comme l'a fait Aldo Ayello. C'est pas ça, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Il faut quand même nous respecter un peu. Il faut nous respecter. Puisqu'il y a malaise, retrouvons-nous entre nous et parlons de notre malaise.
Alors, évoluons et changeons des sujets. Une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies était à Kinshasa pour une visite de 2 jours. Selon le membre de cette délégation, cette visite qui intervient en moins de 2 mois des scrutins présidentiels et législatifs en RDC va témoigner de l'importance qu'accorde le Conseil de sécurité à la réussite de la transition démocratique congolaise. Cette délégation a bien sûr rencontré les hauts responsables du pays. Cependant, la grande préoccupation de nos auditeurs avec le passage de Jean-Marc de la Sablière à Kinshasa était aussi celle de savoir quel était au fait l'agenda de la communauté internationale après les élections. Et je vous invite à suivre la réponse qu'a réservée à cette question Jean-Marc de la Sablière.
Il est absolument indispensable, c'est la démocratie, n'est-ce pas, que les résultats des élections, qui seront des élections crédibles, soient acceptés. Il y aura les observateurs, la communauté internationale est là. Un comité des sages, d'ailleurs, qui va être créé avec personnalités de très 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 haut niveau, africaines notamment. Il y aura les conditions pour que ces élections soient crédibles et il faut qu'elles se soient acceptées. Alors, nous disons aussi qu'il faudra que le vainqueur soit généreux et il faudra que les vainqueurs acceptent les élections. Troisièmement, si jamais il y a des contestations, toute démocratie peut avoir des contestations pour les élections. Je redis, il faut que ces contestations se fassent selon des procédures légales et pacifiques. C'est fondamental. Bien entendu, vous imaginez bien que le Conseil de sécurité s'opposerait à toute contestation qui ne serait pas légale et pacifique.
Mais après les élections, la préoccupation de nos auditeurs, c'est celle de savoir si la communauté internationale sera toujours là pour accompagner...
C'est une très bonne question. Et je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça nous donne l'occasion de vous dire, oui, nous serons là. Et vous savez, il y a 3 choses qu'il faut faire, notamment après les élections. Il est très important que les acteurs politiques congolais se rassemblent après les élections, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce pays après cette transition qui doit être réussie. Mais les élections ne sont qu'une étape. Deuxièmement, il est extrêmement important que l'on termine le travail sur l'intégration de l'armée. Le Congo a besoin d'une armée intégrée. Et troisièmement, il est extrêmement important que le Congo soit mieux géré. Il y a beaucoup de richesses dans ce pays. Et il faut que ces richesses profitent à la population. Et donc, il faut que la maison soit mise en ordre, que les vieilles pratiques très anciennes dans ce pays disparaissent. Et il faut que la communauté internationale aide le Congo. Et nous serons là. Croyez-moi, vous pouvez compter sur nous.
Oui, Ben Clet, votre réaction. Il faut que la maison soit mise en ordre pour aller aux élections, pour que après les élections, il n'y ait pas de contestation et tout ça.
Ben, si la fondation d'une maison n'est pas solide, n'est pas faite selon les règles de l'art, je crois que la maison elle-même ne tiendrait pas. Alors là, Jean-Marc de la Sablière n'a pas trouvé les mots qu'il faut dire aux Congolais aujourd'hui, aux Congolais responsables. Qu'est-ce qu'il veut dire, par exemple, lorsqu'il demande à celui qui va gagner les élections d'être généreux? C'est de former un gouvernement d'union nationale, donc de prendre ses opposants et d'aller avec dans le même bateau. Mais ce n'est pas normal. Au pays de M. Jean-Marc de la Sablière, lorsque les socialistes remportent les élections, ils ne prennent pas les gaullistes avec eux. Cela doit attendre leur tour.
Mais est-ce que comparaison est vraiment raison?
Comparaison est raison.
On peut comparer le Congo à la France aujourd'hui.
Nous sommes en train de parler de la démocratie. Il n'y a pas une démocratie congolaise, une démocratie française. Non. Le principe de la démocratie, ce sont des principes universels. Alors, nous n'aimerions pas qu'on vienne nous raconter des histoires que celui qui gagne les élections oublie qu'il les a gagnées et qu'il doit maintenant rentrer, ramasser tous ceux qui s'étaient opposés à lui. C'est ça que nous appelons chez nous vagabondage politique. ça va créer encore beaucoup de remous dans les rangs de la société congolaise. Ça, on n'en veut vraiment pas. C'est lui qui gagne les élections. Tant que c'est dans la transparence. Mais il les a remportés, nous applaudissons. Et le pays peut continuer. C'est là-bas que on peut, puisqu'il a gagné les élections, il peut maintenant voir les autres points à l'ordre du jour, c'est que prescrit Monsieur Jean-Marc de la Sablière, l'unité des fils du pays, l'armée nationale intégrée, et puis la bonne gouvernance. Mais pas des histoires de gouvernement du nom national après les élections.
Oui, Rogatien Kapema, également brièvement, votre réaction, vous avez suivi la réponse réservée aux questions, à une des questions de nos auditeurs en ce qui concerne l'après-élection. Quelle est votre réaction?
Madame, je vous disais d'abord de me permettre de réagir à chaud parce que j'ai bien suivi cette impression disant qu'il est nécessaire que l'opinion internationale puisse reconnaître la légitimité de cette élection, bien le choix. Mais je crois que normalement c'est le peuple qui doit reconnaître la personne qui sera élue au pouvoir. Si nous avons une majorité du peuple qui conteste le candidat qui passera à la magistrature suprême, c'est-à-dire qu'il y aura magouille quelque part. Je vous dirai, je ne sais pas si vous êtes au courant, je m'arrangerai même pour vous envoyer les documents, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la conférence de presse qui a été effectuée par M. Novin Gwanda, que certains appellent terminé. Par rapport à certains documents top secrets qui ont été par M. Carlos de Philippe, et ce document stipule une ère noire sur blanc certaines réalités et certaines choses qui vont s'effectuer par rapport à ce processus qu'on dit électoral et démocratique. Alors pour moi, je me sens blessée largement, et pour moi c'est une injure et une insulte de déconsidérer le peuple congolais par rapport à sa valeur intellectuelle et morale. Je dis que seul le peuple a le droit d'élire quelqu'un, seul le peuple a le droit de gérer une nation qui l'appartient et non un homme. Parce que même si nous parlons de régime semi-présidentiel avec la constitution, il y a encore beaucoup de choses et cette constitution nous met mal à l'aise.
Oui, Nancy Odia, également votre réaction par rapport à cette réponse même de Jean-Marc de la Sablière en ce qui concerne l'après-élection.
Jean-Marc de la Sablière, c'est un monsieur très intelligent. Il place le problème dans un contexte. La RDC est un pays post-conflit, c'est-à-dire, et puis nous sommes un pays de jeune démocratie, il ne faudrait pas nous comparer
à la France
qui a fait son parcours en termes de liberté, d'expression, de démocratie et tout. Et donc, faut, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, et comparaison n'est pas nécessairement raison. Et donc, s'il faut qu'après les élections, que le gagnant associe les autres à la gestion du pays, ce ne serait pas mal. Ne serait-ce que durant ces 5 ans, ça nous permettrait d'éviter certaines frustrations.
Et sur la présence même de la communauté internationale pour suivre les institutions qui seront élues.
Et puis, il a une façon, Jean-Marc de la Sablière, de responsabiliser les Congolais. Il dit, voilà, tout ce que nous voulons, c'est que ces élections aient lieu. Battez-vous pour que elles soient organisées au 30 juillet, comme les prévoient les calendriers. Il défend son calendrier, mais la communauté internationale ne veut pas trop s'ingérer, sinon les Congolais, ils passeraient pour des marionnettes. Ce ne serait pas bon.
Je demande tout simplement, pourquoi faut-il organiser les élections, dépenser des millions, en sachant que demain, on ne tiendra pas compte de ça parce que c'est le chef doit être généreux et distribuer des cartons à tout le monde.
On ne parle pas de la générosité.
C'est ça qu'il dit, c'est le terme qu'il a utilisé.
Oui, mais ça dépend de façon dont on peut interpréter, au fait, ces thèmes. Ça dépend de la façon, Benklet, dont on peut interpréter ces thèmes-là.
Je prends votre interprétation, Benklet. C'est le terme qu'il a utilisé.
Oui, ça c'est votre interprétation, comme la Cour suprême de justice aussi interprète à sa façon les lois.
De large union nationale, ça existe dans le monde.
D'accord. Donc, c'est la fin de cette mission. Nous disons donc au revoir à tous les auditeurs de cette tribune de la presse. Et nous leur disons également que cette émission sera rediffusée demain matin à 5h30 heure de Kinshasa. Vous pouvez également la retrouver sur le site internet sur www.radiocapi.net. Et nos auditeurs sur ondes courtes peuvent la suivre sur 11.69 kHz. Au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais, au revoir et à la prochaine.
Thank you.